Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il n'y a pas de tension, hein. Tranquille. Elle me regarde. Question suivante.
Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça ne veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after en direct sur RMC, 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. La compo ce soir, Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Stéphane Guy, salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
Vous êtes en pleine forme? Ça fait quoi de gagner un quiz?
Quiz de génération acheteur. Moi j'en joue jamais.
Ouais.
Donc là j'arrive, j'en joue un, c'est normal que je gagne. Vous voulez que ça se passe comment?
Je sais pas, parfois on peut perdre, non?
Non, c'est bon.
Champion de vice.
Si Walid avait joué avec moi, il aurait gagné pour une fois, mais bon, mon équipe adverse.
Ouais, lui va pas passer une bonne soirée. Il est parti.
Il a pris une belle volée quand même.
Hein. Vous pouvez aller écouter ça en podcast. Dernier quart d'heure de Génération After. Au programme dans l'After, ce soir, dans un instant, le retour de la Ligue 1 au MPSG dans 3 jours. Ce match est-il vraiment important pour le Paris Saint-Germain? Avant la Coupe de France, avant la Ligue des Champions, et alors que la Ligue 1 est déjà quasiment gagnée, on vous attend au 32-16. La 27e journée qui débutera demain par le derby du Nord, Lille-Lens. On en parle à 22h30 avec un invité qui s'appelle Olivier Brochard, auteur du livre « Histoire des derbys Lens-Lille ». 23h avis de Stéphane sur les JO. Les clubs français doivent libérer leurs joueurs cet été. On a eu un petit avant-goût dans Génération After avec Daniel. Et puis Yoann Lemaire sera avec nous. On va décrypter avec lui la campagne de lutte contre les discriminations. Il y a du changement cette année. Fini, par exemple, le fameux maillot arc-en-ciel. Il est le directeur de Foot Ensemble. Il nous expliquera pourquoi ce soir. Et puis le meilleur de l'actu du jour en fin d'émission. Beaucoup d'actu aujourd'hui, plein de choses. Notamment les petits calculs aujourd'hui du patron de la DNCG qui nous explique pourquoi et comment les clubs français dépensent mal leur argent. Sur tous ces sujets, on vous attend au 32-16. Adrie et Max sont là au standard. Les nouvelles stars des podcasts de l'After sont là. N'hésitez pas, le 32-16. Je vous lis également sur le Direct Studio, si vous le voulez. Et sur YouTube, bien évidemment, la chaîne de l'After, @after-foot. Avant de débuter, vous rappelez que c'est le retour du coffre RMC. On vous en parle cette semaine et on vous offre jusqu'à 50 000 euros dès que vous entendez ce signal.
Pas le signal.
Oui, c'est un bruit de coffre qu'on ouvre.
Là, c'est mieux. Là, ça fait l'oseille qui tombe. Là,
t'as braqué le coffre.
Ouais.
732-16 par SMS pour envoyer coffre dès que ce signal tombe. Et demain, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Mais vous pouvez aussi remettre cette somme en jeu en ouvrant le coffre RMC. Et si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Envoyez coffre par SMS au 732-16. Il est 22h04, merci d'être là sur RMC. Et c'est le grand retour de la Ligue 1. Et quel bonheur de la retrouver avec un week-end comme celui qui nous attend sur RMC. Le derby du Nord demain soir.
T'as pas aimé les matchs d'équipe de France?
Moi j'aime bien les compètes, mais les matchs amicaux des Bleus, j'ai du mal. Ouais. Puis bon, là les faits m'ont donné raison.
On souffre pendant les trêves de 2 semaines.
Est-ce qu'on peut dire qu'on souffre un peu tous quand même, quelque part?
Non, on est d'accord là-dessus. On fait d'autres choses. C'est le moment justement où on peut. Il y a un livre le soir, on va se dormir, le cinéma.
Oui, bah, il y en a qui font ça. Bon, Gilbert, il a fait ça.
voyager, voilà.
Ouais, voilà. Mais si Gilbert fait ça, forcément, il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire ça. La Ligue 1 qui revient, ça sera pas
sur le planning, Thibaut, c'est ça que tu es en train de dire.
Non, pas du tout.
Hein. Oui, heureux de voir des matchs.
Très heureux d'être
avec vous.
Des
matchs qui comptent.
Ouais, voilà. Et à partir de demain.
Et comme en plus, on nous en a enlevé des matchs, puisqu'on a réduit le nombre d'équipes en Ligue 1, parce que c'était une formidable idée. Parce que nos joueurs sont trop fatigués. Donc ça fait un calendrier encore plus light.
Il reste 8 matchs de Ligue 1.
C'est pas beaucoup, hein? 8.
Le sprint final, 24 points à prendre. Et ouais. Paris, on a 12 d'avance sur son dauphin.
J'aime bien cette expression sprint final, parce qu'en fait, il est marquant le sprint final.
Là, maintenant. Et tu sais pourquoi?
Non.
Parce que j'ai décidé que c'était maintenant.
Oui, parce que cette expression sprint final, à chaque fois, je me dis, mais ça démarquant.
Non, mais
alors
là,
moi,
c'est
dans
là.
Mon imaginaire,
c'est là, là.
C'était à la 30e journée.
Oui, mais quand on était sur 38, voilà, 8 journées de la fin. Voilà, on est à
c'est toujours la 30e, mais il est plus petit, le sprint.
Ah, c'est vraiment.
Il fait 4 matchs.
C'est le sprint des Champs-Élysées. C'est arrivé, c'est vraiment c'est le plus serré de tous. Quoi.
C'est tout de suite.
Ouais. En tout cas, c'est une période décisive qui s'annonce. Paris, 12 points d'avance sur Brest, je le disais. Paris qui jouera 3 jours plus tard sa demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Il y aura la Ligue des Champions la semaine d'après. Est-ce que finalement, cet OM Paris Saint-Germain est vraiment important pour Paris? On vous attend au 32-16. N'hésitez pas à venir en débattre. On a fait un thème qui s'en est approché un petit peu dans l'After Paris, qui est dispo et que je vous invite à écouter après minuit avec Daniel et avec Jimmy. Un formidable podcast cette semaine. Mais est-ce que ce match est important pour Paris Saint-Germain?
Il a passé ses diplômes de médecin depuis, Jimmy, parce que comme il a fait tout un podcast entier sur la condition physique, la récupération, et visiblement, il a passé les diplômes de médecin. Je veux savoir si depuis, il a...
Alors, j'ai une vue sur
confirmer son avis.
Jimmy en régie, je pense qu'il a pas passé les diplômes, mais il a passé des coups de fil à des gens qui savent, je crois.
Ouais. Non, mais il les a passés après, malheureusement. Il aurait dû les passer avant. Il aurait dû les passer avant, ça aurait été mieux.
Vous écouterez ça après.
Effectivement.
Important ou pas ce match pour le Paris Saint-Germain, Daniel?
Important si c'est en termes de points pour le championnat, je pense que ce sera pas catastrophique si le PSG fait une contre-performance à Marseille, parce que à moins d'un cataclysme ils seront encore champions. Maintenant, si c'est important, et le foot n'est pas que comptabilité, et le foot ça n'est pas simplement une victoire ou une défaite, mais c'est aussi des histoires, et je pense qu'à partir du moment où ça compte énormément pour l'OM, et là pour le coup en termes de points et en termes d'histoire, le PSG qui est le rival de l'OM ne peut pas se contenter de dire pour nous c'est moins important, un petit peu comme si finalement ça avait moins d'importance pour Paris de gagner ce match que pour l'OM. Et dans le podcast PSG, c'est quelque part ce que laissait entendre Jimmy, parce que la nouvelle génération des supporters parisiens, c'est vrai, moi je ne les comprends pas, ils ont une mentalité qui a un peu vrillé maintenant, ils accordent moins d'importance à ça. Ils sont un petit peu en train maintenant de dire, ouais, il y a le match de Ligue des Champions, il y a le match de Coupe de France, il faut faire tourner là, il faut faire tourner là. Moi je pense que le match contre l'OM, c'est de l'histoire. C'est très important, c'est important pour les Marseillais, c'est important pour les Parisiens. Je gomme évidemment, parenthèse toujours utile parfois à faire, tout le climat de violence qu'il peut y avoir, de vraie violence. Mais pour ce qui est de la rivalité et de l'importance que ça doit avoir de gagner ce match-là entre Marseille et Parisiens, parce que dans les deux camps, on adore ce match-là, je pense qu'il ne faut pas, cracher sur l'histoire. Le match au Vélodrome, il est toujours très important. Et oui, le PSG doit aligner une équipe type dimanche soir, doit aller tout faire pour aller gagner ce match-là. Donc il est important, il est effectivement très important, il est beaucoup plus que celui de la semaine d'après contre Clermont, où là, il faudra mettre une équipe B à quelques jours du match contre le Barça.
Qu'est-ce qu'une équipe B, qu'est-ce qu'une équipe type?
Ça, c'est un petit peu plus compliqué pour ce qui concerne le PSG, mais en tout cas, il y a quelques joueurs qu'on pourrait facilement faire souffler. Après, on dira pourquoi c'est important également pour l'OM, mais oui, pour le PSG, en tout cas,
On a beaucoup parlé de l'OM hier soir et de l'importance que ça avait. Ça a une importance en termes comptables, pour le coup, beaucoup plus réelle pour l'OM. Mais évidemment que c'est un match important, c'est un match crucial pour les supporters du Paris Saint-Germain. C'est un match patrimonial, le PSG-OM désormais. Donc, et puis il y a une question, il y a une force symbolique énorme autour de ce match-là, et je suis sûr que même si les supporters changent, Daniel, je pense pas quand même qu'il y ait beaucoup de supporters qui n'attachent pas une importance cruciale à ce rendez-vous-là.
Il y a beaucoup de relativisme par rapport à ça. Il y a vraiment des
32-16. Hein, venez nous le dire. N'hésitez pas.
J'entends des choses parfois qui dérangent sur ce sujet.
Bah, après, on peut aussi se dire que là, ce match contre Marseille, t'as effectivement cette affiche.
Mais j'ai un scoop.
La Coupe de France qui arrive dans la foulée.
Ouais. J'ai un scoop pour aller plus fort que Daniel. Paris va être champion. Hein. Il parlait d'un cataclysme. Là, celui-là, faut.
Alors là, tu là, t'avances, mais t'as recoupé tes infos quand même.
Je m'avance.
Au moins deux sources. Ouais. match important pour le Paris Saint-Germain.
Ils perdront pas un match sur deux d'ici à la fin du championnat.
Sauf que trois jours après, il y a la demi-finale de Coupe de France contre Rennes. C'est celui-là le vrai match important. Celui-là est plus important que celui contre Marseille quand même.
Non, je ne suis pas d'accord. Je vois pas les choses comme ça. Il n'y a pas de plus, de moins, de machin. Il y a deux matchs qui sont très importants, qui se suivent tout simplement. Il y a deux matchs qui sont très importants.
De toute façon, tu rentres dans un moment de la saison. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on est excité quand même. On est tout, moi, ça m'excite.
Au contraire, il y en a un sur les trois.
Mais tous les matchs sont cruciaux de toutes les équipes. Il y a des enjeux partout.
Sauf que si tu perds, si le PSG perd dimanche au Vélodrome. Et qui gagne à Rennes. Bon, t'as perdu au Vélodrome, c'est ok. T'as perdu contre le rival.
Si tu perds, tu te poses des questions.
Mais hein. Si tu gagnes au Vélodrome et que t'es éliminé en Coupe de France, bah, je suis désolé, t'as perdu le mauvais match.
Oui, mais en fait, je comprends pas le raisonnement.
Choisirait d'en perdre un des deux.
Exactement.
Il faut choisir
on a des raisonnements. Non, mais... C'est exactement comme quand vous me sortez l'histoire de qui va pas tarder à arriver, parce qu'à chaque fois qu'il y a une équipe qui va un peu loin en Coupe d'Europe, c'est tout le temps est-ce qu'il faut pas privilégier ça à ça, est-ce qu'il faut pas privilégier, mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements d'épicier? En fait, tous les supporters, tous les clubs n'attendent qu'une chose.
Ici, Daniel, ils sont nourris au plus haut sommet du foot puisqu'on décide de supprimer une journée de championnat entre deux matchs de Coupe d'Europe. Là, on est à l'épicerie du coin.
Tu as raison, c'est exactement ça.
C'est le raisonnement
de seul pays d'Europe qui fait ça. De médiocre, de traîne patin, de considérer que là, c'est plus important que là. Mais joue tout. Enfin, là, en l'occurrence, le PSG, ils ont le match au Vélodrome, super important. Rennes, super important. S'il y en a un qui est en dessous, c'est le match contre Clermont.
Ah oui,
en plus, d'accord. t'as la chance d'avoir tes points d'avance. T'as la chance de pouvoir trébucher sans que ça hypothèque tes chances d'être champion. Mais il y a pas de hiérarchie. Il y a deux matchs super importants, un match en bois et un match hyper important qui arrive derrière, qui est la Ligue des Champions. Oh! Mais joue, profite, kiffe. Arrête de te dire, ouais, mais là, je vais peut-être faire ça.
Les joueurs sont hyper excités.
Mais bien sûr.
Et le contrario de ça, c'est justement un peu le débat qu'on avait hier soir à l'OM, qui se disait, allez, il faut tenir jusqu'à Rennes, après on aura 15 jours pour se refaire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans les 15 jours? Ils ont perdu joueur sur joueur, ils ont une équipe. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller.
32-16 supporters parisiens, supporters marseillais également, pourquoi pas. On vous attend. Ce match est-il vraiment important pour
l'OM,
Paris?
C'est pas leur kiff de l'année s'ils battent, imagine, ils gagnent dimanche.
Bah oui, justement, les clubs du PSG et de l'OM, ça n'a rien à voir. La situation est totalement différente.
Ah bon, mais pourquoi l'OM, ils essayent de remonter au classement. Ils essayent d'attraper une place. Ils ont un match aller-retour passionnant contre Benfica. Ils ont exactement les mêmes enjeux que Paris.
Ils ont des enjeux également.
Ils ont les mêmes enjeux. Oui. Ils ont un championnat où ils sont à fond pour remonter et ils ont un match de Coupe d'Europe. Ils ont juste la Coupe de France en moins. Donc, raison de plus pour qu'ils soient au taquet sur ces deux matchs. Et Stéphane l'a dit, malheureusement, il leur manque une tonne de joueurs.
Mais peut-être que vous surestimez ce soir, c'est cette affiche OM Paris Saint-Germain qui, depuis quelques années, a quand même beaucoup moins de saveur. L'écart est cette année tellement important entre les deux clubs.
Tu sais que ce que tu dis là, c'est une tarte à la crème énorme. Ouais. J'ai écrit un livre sur la rivalité avec Jeff Perez en 2003. Et déjà à l'époque, les gens disaient ça. Et 10 ans avant, il disait ça.
Oui.
Et 5 ans après, il disait ça.
Ça a pu baisser entre 93 et 2003.
Mais c'est des conneries. L'année dernière, rappelle-toi du match de Coupe de France au Vélodrome. Dans quel état ça a mis le Vélodrome?
Parce que t'avais un Marseille qui était fort, qui était au sommet de la Ligue 1 avec Tudor.
Et tu crois que s'ils battent le PSG là, ça va pas être explosion de joie à Marseille?
Oui, mais là, on se met dans la peau du Paris Saint-Germain, justement.
Mais le PSG, tu crois que ça va leur faire plaisir de se faire tanner le cul au Vélodrome s'ils perdent?
C'est pas ce que je dis.
Bon, ben, donc. Il y a pas de c'était plus, c'était moins, c'était ceci, c'était cela. Arrêtez d'évaluer le peu de choses qu'on a, comme a dit Stéphane, j'aime bien l'expression patrimoniale dans notre championnat. C'est important, ce week-end, il y a un Lens-Lille, on va en parler tout à l'heure, vendredi soir. C'est passionnant pour les Lensois, les Lillois qui, pareil, ces deux équipes en parallèle ont eu des parcours différents cette année. Il y a une équipe qui n'est plus en Coupe d'Europe, une autre qui est encore. Les deux visent le top 5. C'est génial de voir un match pareil. Deux jours après, On a un super OM-PSG, mais il n'y a pas de plus ou moins important et à relativiser. Il faut kiffer à fond ces choses-là.
Tu peux prendre un kiff énorme.
En plus, tu viens
énorme.
De dire que ça fait 15 jours que tu t'emmerdes.
Mais justement, tu peux prendre un kiff énorme, mais te dire que ça peut être, c'est pas finalement un match trop important que ça.
Bah, moi, je trouve que t'es très rabat-joie.
32-16, supporters parisiens, marseillais, n'hésitez pas. On vous attend. Venez.
Il joue un rôle.
Non, je pense vraiment. Venez nous dire si vous êtes rabat-joie comme moi, même si je serais content de regarder ce match, ou si vous êtes plutôt comme Daniel ou Stéphane.
Tu peux faire autre chose, hein.
Non,
j'ai regardé. T'as peut-être mieux à faire dimanche soir.
Non. En plus, après, on vient après faire la libre antenne et tout. Non.
Ah non, je suis excité pour ce match.
Ouais. PGOM là.
Je crois que c'était qu'après Coupe d'Europe.
Bah, gros.
Gros match. C'est un signe. C'est la première.
Eh oui.
Voilà. Exactement. Allez, dans un instant, l'after continue avec Stéphane Guy et Daniel Riolo. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h16. Vous écoutez RMC, première radio de France le soir. Merci encore d'être là en direct avec nous, Stéphane Guiella, Daniel Riolo. On est en direct jusqu'à minuit à suivre le Derby du Nord qui lancera la 27e journée de Ligue 1. Demain, ce Lille-Lens, on en parle dans quelques instants avec un écrivain, auteur d'un bouquin sur ce derby. Mais pour l'instant, à 3 jours de Marseille-Paris-Saint-Germain, on continue notre semaine spéciale. Déjà, le coffre a été vite porté ce soir.
Ça tombe.
C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC. Si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros, c'est le moment de jouer, d'envoyer coffre par SMS au 732-16. T'as pas le droit de jouer, hein, Daniel. Je vois que tu prends ton portable.
Le quoi?
T'as pas le droit de jouer.
Si, t'es en train de jouer?
Non, t'as pas le droit.
Mais il a joué, Stéphane, de toi.
Ah bon? Perdu.
Il faut envoyer coffre par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire à partir de maintenant et l'une ou l'un d'entre vous sera avec nous demain dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter.
Ah, c'est pas ce soir qu'il y a une oseille?
50 000 euros, non, c'est demain. On s'inscrit pendant une semaine et demain c'est les 50 000 euros, on espère.
Mais demain c'est pas dans une semaine.
Non, mais ça fait une semaine qu'on s'inscrit.
Ah d'accord, ok.
On est toujours en direct sur YouTube. Alors, je précise, si vous voulez venir nous voir, vous pouvez. La chaîne @after-foot, mais il y a un souci technique. On peut pas mettre le chat derrière nous.
Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus le chat. Ah,
exactement.
Oh. Mais on est bien sur le chat.
Mais c'est dommage, vous auriez vu quelques messages où.
Vas-y, dis-les.
Pas que, Monsieur Manhattan, je suis d'accord avec Thibaut. Merci, Monsieur Manhattan, de me soutenir ce soir, je pense.
Mais oui, mais c'est la nouvelle génération. Ouais. C'est la nouvelle génération, vous êtes gangrénés.
Peut-être. Et Gilbert, il est en vacances. Oui, et justement, Gilbert revient dimanche pour cet énorme match qui est Marseille-Paris Saint-Germain. Ça va être une grande soirée sur RMC. Est-ce que cet OM-PSG est vraiment important pour Paris?
Il n'y a plus que la Ligue des Champions qui vous fait kiffer finalement.
Mais non, la Ligue 1, je suis le premier à te dire que je vais regarder. Mais tu peux kiffer
en disant. Oui, mais OM-PSG, tu t'en fous, tu relativises.
Bah oui. Bah oui, mais ça peut être excitant quand même.
T'es excité ou tu relativises par PSG OM? Par OM-PSG.
Non, je suis plus excité par OM-PSG.
Ah bon?
Ouais. Mais Lille-Lens, ça m'excite énormément.
Alors, pour moi, le week-end, c'est Lille-Lens.
Mais moi, vous m'aurez pas là-dessus. J'adore la Ligue 1. Je suis désolé. Ah, donc, et trop d'ailleurs.
Oui, mais de toute façon, mais tu dis que c'est pas un gros match pour le PSG que.
Oui. Vu le contexte, c'est pas un gros match pour Paris Saint-Germain.
C'est quoi le contexte?
Bah, je te l'ai dit tout à l'heure. Un Marseille faible, un Paris qui a des grosses échéances à venir, beaucoup de blessés côté marseillais. Bon, bah.
Et ben alors, donc, qu'est-ce qui aurait rendu le truc excitant qu'il soit deuxième à un point?
Qu'il soit deuxième, que tu sois à la lutte pour le titre avec eux.
En plus, s'ils te battent dans cet état-là, c'est encore plus simple, non?
Oui, mais peu importe. C'est pas une question de honte ou de pas honte. C'est une question d'importance, justement. Donc, c'est plus important. Lévis, si c'est plus la honte, c'est plus important.
Je comprends pas. Bon. Je comprends pas ce raisonnement.
Bernard.
Moi, ça me dépasse.
Ouais. Bernard est là au 32-16. À faire l'arbitre. Salut, Bernard. Bernard, tu es là? Supporter de l'Olympique de Marseille? Bernard n'est pas là. Allô, allô? Ça ne marche pas.
Yes. Ah, allô?
Oui, Bernard, tu nous entends?
Oui, oui, parfaitement.
Ah, tu es en direct sur RMC dans l'after avec Stéphane,
bonsoir,
avec Daniel.
Ouais. Tu t'es pas trompé d'émission, c'est bien nous que tu voulais appeler.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Il est pas là, Jacques Vendroux.
Je voulais vous donner un peu le ressenti d'un supporter de l'OM depuis 55 ans.
Ah.
Tout simplement. J'en ai vu des OM Paris Saint-Germain, hein, puisque je suis abonné depuis quand même plus de 40 ans au stade. je pourrais dire beaucoup de choses. Mais bon, on va parler, si vous voulez, du match de demain et bien sûr de ces 10 dernières années.
Alors, c'est dimanche,
de dimanche.
Mais vas-y, ouais.
On a baissé les armes, hein, vous le saviez mieux que moi. Il n'y a pas, on va arrêter, il n'y a plus cette concurrence qu'il y avait avec Paris Saint-Germain. On l'a plus, les gars. C'est fini. Ça fait 10 ans qu'ils sont devant, ça fait 10 ans qu'on a baissé les armes. On va faire un exploit sur une saison, mais c'est mort d'avance, d'autant plus que vous l'avez dit. Il y a des blessés. Alors oui, le supporter de l'OM, il a toujours cet espoir de dire ouais, allez, on va faire peut-être un exploit, mais il faut arrêter de rêver. Ils ont des joueurs que, et vous le savez mieux comment, on ne peut pas combattre contre eux. Voilà, on ne peut pas combattre. Donc, vous savez, il y a 40 ans, 40 ans à l'arrière, et je pense que Daniel, tu l'as autant connu, hein, c'était complètement différent.
Déjà, Daniel, quand il y a 40 ans en arrière, si je peux me permettre.
Mais non, mais Daniel, il dit que c'est toujours aussi excitant qu'il y a 40 ans. Il n'est pas d'accord avec toi.
Moi, j'ai vu en 89 le but de Sauzé à la dernière minute. D'ailleurs, j'avais été interviewé un peu avant le match par TF1.
Wow.
Et j'avais dit on gagnerait le match à la dernière minute. Donc, il y avait ce voilà.
Qu'est-ce là, que tu vois monsieur. Dimanche alors
ouais. La dernière, mais dis-moi, interviewé par RMC ce soir.
Dis-moi, dans ton pronostic d'avant-match en 89, le but à la dernière minute de Sauzé, est-ce que tu avais pronostiqué le fait que Ivic laisse les meilleurs joueurs sur le banc pour ce match-là
parce qu'il avait reçu
un coup de fil, tu l'avais pronostiqué ou pas?
Non, pas du tout.
Regarde la compo du PSG ce soir-là, elle était belle.
Ouais, c'est vrai. Bon, quoi qu'il en soit, on n'a plus cette. Alors, on est peut-être dans un autre monde, les gars, il n'y a plus de concurrence là, au niveau du terrain, hein, c'est clair. Hein. Bon, alors on va y aller, oui, on va dire allez, on va essayer de mettre un peu
de
pression.
Bernard, là on a vu des équipes récemment en Ligue 1 qui sont d'un niveau quand même budgétairement et inférieur à l'OM, mettre en échec le Paris Saint-Germain, notamment en déplacement. Donc c'est pas un truc qui devrait être impossible à faire, même s'il y a, c'est vrai qu'il y a une semaine particulière à l'OM.
Je dis pas que c'est impossible, mais bon. Chaque année c'est pareil quoi. Chaque année on a fait un exploit en Coupe de France, mais bon, c'est et quand ils jouent contre nous ils sont bons, hein, faut le dire, hein. Et donc ça sera pareil dimanche, à moins qu'on sorte les tripes. On sera derrière notre équipe comme on a toujours été, le sera tout le temps, mais bon, au fond de nous On sait qu'on ne peut pas combattre contre eux.
Tiens, Bernard, toi qui es très pessimiste ce soir, j'ai quand même une bonne nouvelle. Oui, c'est vu tous les blessés du moment. Et peut-être des bonnes nouvelles aujourd'hui, parce que le staff marseillais espère quand même pouvoir compter sur Leonardo, Balerdi et Pape Gay, qu'on annonçait ces derniers jours très incertain, voire forfait. Donc il pourrait être là. Voire même Gigot. Il y a encore de l'espoir pour récupérer Gigot qui était blessé à l'épaule.
Ouais,
ça va mieux, Bernard?
Oui, de toute façon, on aura besoin de tout le monde. Balerdi, je pense qu'il le faut impérativement. Après, Gay, il va nous apporter. Alors, c'est toujours pareil, s'il commence à développer les offres, ça va être compliqué, messieurs. Mais bon, allez, on va garder encore espoir, comme chaque année. C'est comme ça.
Tu seras au Vélodrome?
Je serai au Vélodrome, oui, tout à fait, depuis très, très, très longtemps.
Vélodrome qui sera...
Depuis 1978, voilà.
Vélodrome qui battra, a priori, possiblement son record d'affluence
Raconte-nous, on parlait de ça hier, Bernard, mais justement, en 82, PSG-OM, c'était un match comme un autre.
Moi, je montais au parc, moi, tous les groupes de supporters, ils n'existaient pas, il n'y avait que Boulogne-Rouge qui, à l'époque, qui existait, entre guillemets, mais nous, quand on montait, on nous mettait à Auteuil, à l'époque, tous les groupes, j'ai connu le parc de Place avant tous les groupes qui existent.
Voilà. Oui, mais il n'y avait pas de rivalité particulière. Tu confirmes ou pas?
Non. Il y avait Roland Garros, après. Non, il y avait de la rivalité.
Malheureusement, les mémoires sont, et pourtant tu vas au Vélodrome depuis toujours, mais les mémoires sont largement défaillantes sur cette rivalité, parce que quand le PSG par exemple est champion en 1986, Gérard Rouillet est accueilli tapis rouge dans les locaux de la Provence, ce qui serait inimaginable aujourd'hui que l'entraîneur du PSG soit accueilli pour une interview à la Provence s'ils sont champions. La rivalité n'existait pas, elle a été ponctuelle. En plus, dans ces années-là, l'OM se tire la bourre avec Bordeaux et il y a une vraie rivalité qui est construite autour de tapis et Bèze.
Il y a eu
Saint-Etienne, longtemps, bien sûr. Et celle du PSG commence à se créer à partir du moment où Canal arrive, et je faisais référence à 1989 qui est une année intéressante parce que l'OM est champion, le Paris Saint-Germain est deuxième, un deuxième un peu surprise parce que l'équipe d'Ivitch n'était pas fantastique, et effectivement il y a des histoires sur cette saison-là qui font partie de la rivalité et qui sont légendaire.
Est-ce qu'on soupçonne Ivitch de ne pas avoir mis ses meilleurs joueurs ce soir-là?
Au Vélodrome, c'est la bonne équipe. C'est la 35e journée. Mais deux matchs plus tard, il y a un Lens PSG. Ouais. Le titre n'est pas encore complètement acquis pour l'OM. Et effectivement, ce soir-là, Tomislav Ivitch laisse sa fête sous-y sur le banc. Met Philippe Janol avant-centre alors qu'il est libéraux. Et il y a une double prime au Lensois. D'accord. Qui tombe ce soir-là. En cas de victoire.
Et les coïncidences, c'est fou des fois quand même.
Les Lensois ne jouaient absolument plus rien. Et ils ont fait le match de leur vie ce soir-là. Et la compo d'Ivitch ce soir-là est absolument dingue. Et Ivitch deviendra bien sûr peu de temps après entraîneur de l'OM en récompense.
Merci Bernard d'avoir été là. Bon match quand même.
Ce sont des histoires qu'évidemment je n'invente pas. Elles existent dans toutes les archives.
On peut parler de Bordeaux, l'époque de Bordeaux aussi. Paris Saint-Germain,
pas ce soir.
Donc on pourrait en dire.
Ouais, on pourrait en dire, mais pas ce soir, Bernard. On le refera plus tard une prochaine fois. À bientôt Bernard. Ciao. Salut Bernard. Bye bye. Vous dire côté parisien que Marquinhos, Asensio et Skriniar ont repris l'entraînement aujourd'hui, puisqu'on faisait un petit point infirmerie. Et rapidement là, Stéphane, Daniel, pour conclure, quelle équipe du PSG vous voudriez voir dimanche pour ce match contre Marseille? Donc si j'ai bien compris, Daniel, c'est les meilleurs joueurs.
Écoute, oui, après c'est toujours très difficile de savoir quelle est l'équipe type de Luis Enrique, mais s'il y a un match sur les trois à venir où vraiment j'enverrais ce qui ressemble le plus à des remplaçants, c'est vraiment contre Clermont le week-end prochain. Là, réellement, c'est le match où il faut, s'il a envie de faire reposer Mbappé, c'est sur ce match-là. S'il veut faire reposer Dembélé, Vitinha...
C'est plutôt entre Marseille et Rennes.
Ce que je considère être, moi, les joueurs cadres, parce qu'après, je sais pas, dans la tête des Enrique, c'est toujours un petit peu difficile à comprendre, mais c'est effectivement sur le match contre Clermont que je vais reposer un maximum de joueurs qu'on va estimer les meilleurs, vraiment.
Stéphane, contre Marseille,
c'est pareil, les meilleurs. Quand tu joues l'OM, côté le PSG, que tu joues l'OM, t'alignes ta meilleure équipe, évidemment.
Rendez-vous dimanche sur RMC, grande soirée autour de ce Marseille-Paris-Saint-Germain dès 20h dans l'after et jusqu'à 1h du matin avec le retour
après,
de la Ligue 1.
Après, il ne faut pas que ce soit Mbappé aussi fantomatique que les deux matchs en équipe de France, quand même.
Oui.
Oui. Je pense qu'il ne va pas être le même qu'il a été à Marseille.
Normalement, non.
Je ne crois pas.
Parce que ça voudrait dire que Il n'a pas tout donné en équipe de France.
Non, ça vous, c'est, si c'est le cas, ça veut dire qu'il est dans le dur. Et ça peut arriver, hein. Il a le droit aussi d'être dans le dur, mais.
Ah oui, s'il est pas bon dimanche, alors ouais. Que dans ces matchs-là, il est souvent bon. Alors là, pour le coup, ça devient inquiétant. Autant, je veux bien la théorie du. Et il passe au travers, et il a une très mauvaise attitude en plus dans les deux matchs des Bleus. Il est plus que critiquable. Si il y avait un troisième match de suite de ce niveau, là c'est pour sa santé qu'il faudra s'inquiéter, parce que ça ne lui arrive pas d'être mauvais trois matchs de suite quand même.
Ce sera la 27e journée de Ligue 1 et elle débute demain, dans moins de 24 heures, par le derby entre Lille et Lens. Et on en parle dans un instant avec Olivier Brochard, auteur du livre Histoire des derbies, Lens-Lille. C'est dans l'after.
C'est le frère de Laurent.
Tu sais d'où est Laurent Brochard quand même, d'ailleurs.
D'Alençon.
Oui, j'étais au collège avec Laurent Brochard.
Mais c'est pas vrai.
J'étais au collège Jean Racine d'Alençon avec Laurent Brochard qui était. Et je raconte toujours ça parce que Laurent Brochard, comme chacun sait, a été champion du monde de vélo, mais aussi, évidemment, entaché par une grosse affaire
aussi,
de dopage. Mais ce bombe-là, moi j'ai connu le gamin.
Dopage dans le vélo. À quelle époque
c'était une coïncidence comme en 89.
Je raconte une petite anecdote amusante quand même et intéressante. Ce bombe-là, donc on avait 12 ans à l'époque, il gagnait le cross du collège. Détaché, avec 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres d'avance, c'était un phénomène. Voilà.
Mais
c'était
la course, là, on est.
Il a commencé par la course.
Donc, après, il avait un cardio, il avait un niveau.
Ce que je veux dire, c'est que c'était un athlète hors norme de toute façon. Voilà.
Tu es toujours en contact avec lui ?
Non.
Vous n'êtes pas retrouvé sur Copain
d'Avance ? Non, il n'est pas. Il est dans la Sarthe, je crois, maintenant. Il vit dans la Sarthe.
Champion du monde.
Mais c'était un garçon,
champion du monde. Comme le club blanc.
Un copain très sympa de collège.
Le Tcho. Comme Julien Alaphilippe, plus récemment pour l'équipe de France.
Qui a commencé le cyclisme en FSGT, dans les fédérations parallèles.
Moi, j'étais plus affilié. De Orange à la bière, personnellement. C'est plus mon vélo.
Il n'a pas été champion du monde,
Jalabert. Non, de contre-la-montre, mais pas sur route, non, il n'a jamais été.
Ça ressemble un peu d'ailleurs à Jalabert.
Ok.
Il y a un petit truc.
Plus Jalabert que Djokovic, alors finalement ?
Non, Djoko, c'est vraiment.
Ouais,
Djoko, c'est ton. Djoko, c'est ton frère.
Ok.
Djoko, c'est le frérot pour toi,
peut-être. 22h29, on se retrouve dans un instant pour le derby du Nord sur RMC avec Stéphane Guy et Daniel Riolo. Et vous tous au 32-16, hein, je vous attends, mais Lillois, mais l'on soit tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Stéphane Guy et Daniel Riolo en direct jusqu'à minuit, direct à la radio sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after. Vous pouvez venir nous voir, commenter, mais entre vous, hein, ce soir, on a un petit souci technique. On peut pas vous lire sur le mur derrière nous, mais on est très heureux de passer cette soirée en votre compagnie. À suivre, l'avis de Stéphane, les JO, les clubs français doivent libérer leurs joueurs. Ça a beaucoup fait parler aujourd'hui. Beaucoup d'entraîneurs français se sont prononcés. D'abord la Ligue 1 et cette 27e journée qui débute demain soir dans un stade Pierre Mauroy plein pour le derby face aux voisins lensois, un derby historique et important sportivement en plus. Un point d'écart au classement à l'avantage du LOSC en ce moment. Et nous sommes en direct avec Olivier Brochard, l'auteur de Histoire des derbies Lens-Lille. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir à vous tous à l'after et bonsoir à tout le plateau et votre bloc opératoire.
On l'évacue tout de suite, pas un membre de la famille de Laurent Brochard.
Alors non, justement, la petite anecdote, c'est que Laurent Brochard, c'est un D au bout de son nom, et moi, c'est un T. Ah. Mais on s'est croisés parce que je suis impliqué dans la lutte antidopage depuis l'affaire après Festida. Et j'ai eu à le croiser sur un contrôle antidopage sur une épreuve ultérieure. Et voilà, c'est la petite anecdote à savoir. J'étais impliqué, je suis psychiatre, mais j'étais très fortement intéressé par tout ce qui pouvait être toucher le dopage et tous les potentielles psychopathologies liées au dopage. Et j'ai fait une carrière qui m'a amené même à l'UEFA, que j'ai quitté il y a 3-4 ans.
Toujours sur le terme du dopage ?
Toujours dans le terme du dopage, de la lutte antidopage. Je suis impliqué toujours à la FLD, Agence française de lutte contre le dopage, comme expert pour les autorisations et usages thérapeutiques. Voilà.
T'as pas fait grand chose parce qu'il n'y a pas eu d'affaire de dopage dans le foot révélé récemment.
Non, mais moi à l'époque à l'UEFA, on en a eu au niveau du Kosovo qui commençait à prendre son essor.
Ah, d'accord.
Après, Mais après, c'est
ouais.
vrai que c'est anecdotique dans le football. Hein.
Bah ouais, c'est pour ça que. Le derby, je trouvais que c'était intéressant parce que le Lens-Lille, je me demande si dans l'after, en plus de 15 ans d'after maintenant, si on en a déjà parlé plus d'une fois.
C'est
un derby qu'on a le moins évoqué. Non, mais qu'on parle du match, mais de l'histoire du derby, d'anecdotes autour de ce derby. Évidemment, Saint-Étienne-Lyon, PSG, on n'en parle même pas, qui n'est pas un derby, hein, c'est ce qu'on appelle une sorte de derby national, c'est pas vraiment la même chose. Le Lens-Lille, je pense que c'est un derby qu'on a plutôt maltraité. Donc ouais, je suis très content que demain soir, en plus les deux équipes sont dans le haut du classement, elles sont intéressantes en ce moment, donc je suis très content de t'entendre sur le sujet.
C'est rare qu'elles le soient ensemble.
Et j'ai pas mal de questions justement là-dessus. Ouais.
Et d'ailleurs, est-ce que tu as une explication à ça, Olivier? Est-ce que c'est vrai que quand on parle des derbies en France, tout de suite on pense à Lyon-Saint-Étienne parce que c'est chaud, c'est pas un derby, mais t'as l'affiche bien sûr Marseille-Paris. T'as une explication en fait qu'on en parle un peu moins, alors que c'est un derby qui a été énormément joué. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais ça a été le derby le plus joué.
Votre niveau, vous en parlez mal. Enfin, vous en parlez moins, mais au niveau régional, on ne parle que de ça. Depuis, vous savez qu'une fois que le calendrier est lancé au mois d'août, au mois de juillet, on coche les deux dates. Hein, et à partir de là, on organise tout autour de ça.
Hein, et d'où tu parles, Laurent? Tu parles des Flandres, tu parles de l'Artois, ton accent il vient d'où?
Alors moi je suis du Nord, je suis de Douai dans le Nord. Pourquoi je suis parti dans ce bouquin là avec Jean-Baptiste Alloire. Je faisais les soirs de La Voix des Sports que vous connaissez. C'est cet hebdomadaire qui paraît le lundi. Et donc je suis parti là-dessus parce que j'ai mon grand-père maternel qui a été le premier président d'un club de supporters lensois, Pascal Blanquet, et j'ai mon père Jean Brochard qui m'a amené, qui était un fervent supporter de Lille. Alors j'ai assisté à toutes ces joutes, familiales, et qui m'a emmené dès l'âge de 6 ans. À l'époque, à Henri Joris, vous connaissez ce stade mythique. Et donc, à partir de là, mon âme est partie à Lille. Mais après, je garde d'excellents contacts avec tous mes copains lensois.
Hein. Alors, quels sont les ressorts finalement de cette rivalité vue de l'extérieur? Évidemment, on connaît quand même l'histoire du foot. On sait en plus la sociologie des deux villes. Est-ce que c'est un basique riche-pauvre, ouvrier contre les bourgeois, l'industrie puissante contre la mine? Ça se construit un petit peu autour de ça, le sport contre la culture. Ouais. J'ai souvent raconté l'anecdote à l'époque que Cédou m'avait relaté sur Mauroy qui avait dit on laisse le foot au plouc de Lens, Lille c'est pour la culture. Raconte un petit peu tous les ressorts de cette rivalité.
C'est exactement ça, hein. c'est le populaire lensois contre vraiment les plus riches lillois au tout début, hein. Puis après vous savez bien que ça s'est démocratisé, on peut dire ça, hein, ce terme est bien utilisé. Oui, il y a eu plein de rivalités comme ça, donc qui ont été entretenues par les différents aussi présidents, Gervais Martel à un moment qui voulait fusionner, enfin qui ne voulait pas fusionner, ou qui voulait en tout
cas. Pourquoi il était question d'une fusion entre Lens et Lille?
Oui, il y en a eu un du temps de Besson, je crois que c'était en 93 ou enfin en tout cas ça a été d'actualité.
Je me souviens pas du tout de cette histoire Besson comment il s'appelle l'homme politique.
Besson était président du LOSC et puis Gervais Martel président du Racing Club de Lens.
Besson le Sarko, hein.
Oui,
un autre Besson.
Oui, alors c'était presque signé et un homme est intervenu en disant c'est pas possible. Moi je n'accepte pas et vous ne le ferez pas. C'est Jean-Louis Borloo. Voilà. L'histoire est encore relatée sur les réseaux sociaux cette semaine.
Je ne savais pas qu'on avait été si proche que ça d'une fusion. Mais c'était
quoi l'époque où Lille est quasiment en dépôt de bilan, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était. Gervais Martel avait proposé les bases, mais c'était sur une absorption du LOSC. Je crois que ça. Alors, est-ce que ça s'appellerait encore le Racing Club de Lens? Non, ça serait.
Pourquoi appelé... Borloo, lui, c'est Valenciennes, donc qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans?
Ouais, mais c'est lui qui a été déterminant en disant on arrête tout ça. Parce que. Voilà, il y a une rivalité saine pour l'instant entre Lille et Lens. Et après, je crois que sur Valenciennes, ça va après avoir des retombées. Donc, je ne suis pas d'accord. Et à partir de là, ils ont laissé tomber. Voilà.
Tu dis saine, ça veut dire que bon, là, on a encore nous en souvenir le derby de l'année dernière qui avait été violent. Mais globalement, c'est plutôt une rivalité qui n'est pas entachée.
Alors... Ça a évolué quand même depuis 10 ans. Hein. Avant, les joueurs étaient des joueurs qui... Je parle encore du derby de 2010. Il y avait encore des Stéphane Dumont, Cabaye, Debuchy, qui étaient formés à Lille, enfin qui étaient Lillois, qui étaient nordistes, qui jouaient contre des Lensois. Là, maintenant, il y a plus de... Enfin, en tout cas, il y a plus de régionaux de l'étape.
Il y a Chevalier, quoi.
À part Chevalier, ouais, de Calais, bien sûr. Voilà, on sent quand même que c'est plus les supporters qui maintiennent comme ça la tension.
De ce côté-là, voilà. On a même le sentiment que c'est une tension qui n'était pas présente il y a 10-20 ans. Là, maintenant, c'est vrai que les groupes ultras se sont un peu radicalisés partout. Et là, on surjoue presque la rivalité pour arriver aux événements auxquels faisait référence Stéphane, l'envahissement de terrain et les problèmes qu'il y avait eu l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être déjà. Hein. Je crois que c'est déjà
début saison dernière. Il y a eu ça, tout à fait.
Bon, on sent qu'on est entré dans le dur d'une rivalité qui peut devenir violente.
Exactement, et on ne maîtrise pas les aléas. Enfin, demain, les Lensois vont arriver sur l'île. Alors, je sais pas s'ils viennent en bus, mais moi, je leur conseillerais de venir peut-être en auto, qu'on ne les repère pas.
Ouais, ce sera très encadré. Ils seront 1000, ce sera très encadré. La préfecture a...
ils seront encadrés, mais ouais. Bon, vous savez,
oui, malheureusement, on sait que ça peut déborder.
Foule, ouais. Lisez Le Bon, enfin, je vous convoquez Le Bon, Gustave Le Bon, avec l'effet des foules. Vous verrez que tout est possible sur une foule.
Et est-ce que dans cette rivalité, il y a une sorte de bataille sur les chiffres, les palmarès? Si on prend un Saint-Étienne-Lyon, on va dire que les Lyonnais doivent dire aux Stéphanois que vous êtes l'équipe un peu en noir et blanc du passé, et que nous, enfin, on est plus moderne, nos titres sont plus modernes. Ça se passe comme ça.
Ouais. Moi, j'ai vécu. Alors, j'ai 60 ans. J'ai été au LOSC depuis l'âge de 6-7 ans avec mon père qui m'a amené là. Mais j'ai vécu quand même jusqu'à la remontée du LOSC en Ligue 1 en 2001, l'année de Vaïd, qui fait remonter le LOSC et les premiers matchs de Coupe d'Europe. J'étais avec mes cousins à Lensois qui m'amenaient à Bollard et qui me disaient écoute, joue la Coupe d'Europe et puis après tu verras. Alors c'est vrai que j'ai assisté au Laziodrome, Lens, etc. À l'époque, Lens...
Dans le Lens Lazio, t'étais au stade?
Oui, j'étais au stade de 6-0 et amené par mes cousins, bien sûr, Lensois, et je ne pouvais pas rivaliser.
T'étais au stade pour voir le 6-0 et Didier Six.
Exactement, 60 ans, oui, quand même, je suis plus vieux que vous. Hein.
Voilà. Quelle année ça?
77,
je crois. 77,
oui.
77, ouais, je dois avoir 14 ans.
Est-ce qu'il y a souvent eu, là, parce que là, c'est quand même un match au-delà de la rivalité régionale qui a un fort enjeu sportif. Ouais. On a souvent eu Lille et Lens comme ça dans le top 5 de la Ligue 1 ou...
Alors, ça s'est joué à 4-5
fois. Moi, j'ai toujours l'impression que c'était des équipes qui étaient jamais trop dans les mêmes eaux, mais je me trompe peut-être.
En fait, en inspectant ces deux montées respectives entre Lille et Lens, en fait, les deux parcours, on sent qu'il y a un antagonisme quand même. Hein, c'est-à-dire que quand Lens va pas bien, et comme Lille va bien, il y a toujours une histoire comme ça qui se passe. Lens va venir essayer de revenir à la hauteur, ce qui s'est passé ces dernières années. Et Lille a pu remonter comme ça à un moment au niveau échelon régional quand Lens était au firmament avec son titre de 98, etc. Lille, à ce moment-là, est descendu. Mais ils se sont accrochés pour revenir après en Ligue 1 et venir rivaliser avec le voisin lensois. Hein.
Olivier Brochard.
Il y a un antagonisme qui se passe entre les deux clubs.
Hein. Auteur du livre « Histoire des derbys Lens-Lille » et sur RMC dans l'After avec Daniel Riolo et Stéphanie. On parlait des supporters. On parle souvent de la passion lensoise. On en fait un peu le club exemple des supporters. Comment on peut expliquer une si grande différence? Est-ce que c'est uniquement l'aspect social?
Souffre de ça, ouais.
Est-ce qu'ils souffrent
de ça? Est-ce qu'ils souffrent de la comparaison où on leur dit « ouais, votre stade aussi par rapport au nôtre ».
Ouais, alors ce que je peux avoir mis en, enfin ce que je peux avoir analysé, c'est que Lens a été très bon et il est toujours très bon là-dessus, d'avoir permis aux jeunes pousses, c'est-à-dire aux jeunes enfants, d'assister aux matchs de football avec leur père. C'était eux les premiers et vous savez que quand vous allez voir un match pour la première fois quand vous avez 6-7 ans, vous devenez tout de suite supporter et à vie du club que vous allez voir. Voilà. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon père à 6-7 ans. Il m'a emmené au LOSC. à Henri Joris. À partir de là, ça ne m'a pas quitté. Ça ne m'a plus quitté. Et Lens a compris ça depuis bien longtemps. On est en, même en, alors non pas en organisant, mais en disant venez en famille. Et à partir de là, tous ceux qui ont vu leur premier match à Bollaert entre 6 et 15 ans, mais ils sont Lensois à vie. Voilà. Et à partir et Lens a cette ferveur à partir de ça. À partir de ça. Maintenant, Lille, c'est plus une ville estudiantine maintenant. Hein. On arrive à faire venir des étudiants au LOSC, mais voilà, c'est d'une manière plus anecdotique. Hein. Voilà. Mais à Lens est devenu quand même, à partir de là, toute une logique quand vous allez au foot, voilà, et si vous allez à Lens pour la première fois, vous y revenez, c'est évident.
Et on peut choisir son camp ou c'est juste une histoire d'héritage finalement, ou de localisation dans le
ouais,
Nord.
Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une zone où tu ne trouveras pas de supporters de Lille, une zone géographique, un coin où tu vas pas en trouver
à part Lens.
Bah à Lens vous en trouverez pas. À Lille vous trouverez des supporters lensois, ouais. Ça c'est sûr. Ça, c'est... Moi j'ai mon interne, je vais le citer, Hugo, c'est un lensois pur souche et on n'arrête pas de s'envoyer des textos en chambrant, voilà. C'est un Lillois, mais il est lensois, voilà, interne en psychiatrie actuelle. Après, il faudrait que ça reste au niveau du chambrage parce que c'est extraordinaire le chambrage. Moi, mon meilleur copain, enfin un de mes meilleurs copains dans le monde du foot, c'est Eric Sikora. On n'arrête pas de chambrer là-dessus. Ouais. Mais si ça pouvait rester comme ça, c'est top.
Et Laurent, est-ce qu'on parle le même ch'ti à Lens?
Olivier, lui.
Olivier, excuse-moi. Est-ce qu'on parle le même ch'ti à Lens et à Lille? Ou c'est deux langages un peu différents.
Non. Lille est un peu plus sélect, allez, je dirais. Voilà, c'est on a moins
le Lillois. On sent pas trop l'accent le Lillois quand il parle. Hein.
Vous m'entendez pas trop en accent, moi.
Si. Un peu, je trouve. Moi, je trouve qu'on l'entend.
Un peu quand même.
Ouais. Ouais. Pas l'accent. T'es pas de Lille.
Pas l'accent en soi, quand même. Si. Et ça, c'est aussi une histoire. Hein. Une fois, un dirigeant. Alors, je vais pas dire son nom parce qu'après, ça va le marquer. Mais il m'a dit à un moment, il m'a dit Tcho. Alors, déjà, si on me dit Tcho comme ça, vous pouvez peut-être vous faire une idée de savoir qui c'est. Il m'a dit Tcho, je vais t'expliquer ce qui se passe entre Lille et Lens. Pourquoi Lens, on sera toujours un petit peu à la ramasse. Et il m'a fait tourner, il m'a pris la main et on est parti sur les parkings, donc avant le match, les parkings de Bollaert. Et en fait, les buvettes du stade, ça se fait dans les plages arrière des autos sur le parking, hein, voilà, avec les packs de bière qui sont ouverts, et c'est là que ça se vend. Donc c'est pas du merchandising qu'on peut, enfin en tout cas c'est pas de l'argent qu'on peut investir dans le club. Ça se fait investir avant dans les grandes surfaces, voilà. Oui. À Lille, maintenant ça devient plus soft avec les salons. Alors c'est toute une histoire maintenant qui se passe avec les parts de marché. Mais que Lens soit au firmament, il y aura toujours des parts de marché parce que Lille est une métropole, parce qu'il y a 5, enfin je dis combien de millions d'habitants, 1, 2, 3 millions d'habitants. Il y aura toujours en tout cas une ferveur, pas une ferveur, en tout cas un repérage du LOSC comme étant un bon produit à faire voir au niveau de la métropole.
Olivier, c'est quoi les...
Parce qu'il y a du monde.
Olivier Brochard, auteur du livre Histoire des derbys Lens-Lille, avec nous encore pour quelques minutes. Vas-y Daniel, après on va prendre Didier qui nous appelle au 32-16 à Lensois.
C'est quoi le chambrage ultime d'un Lillois vers le Lensois et inversement? C'est quoi le ressort ultime du chambrage? C'est quoi? C'est le Lensois, c'est le bouseux. L'autre, c'est quoi? C'est comment ça se passe?
Alors, actuellement, alors je sais pas l'ultime, mais actuellement, c'est les caniches et Stade Pierre Mauroy. C'est voilà, c'est aller dans votre niche. Je l'appelle comme ça. Hein, ouais. Voilà. Oui, c'est ça.
Ah, les caniches, rapport au dog.
Et dans l'autre sens.
Alors, dans l'autre sens, les Lillois par rapport aux Lensois, c'est les ketchup mayo. Voilà, ketchup mayo. C'est bien dans. Il y a un site qui est bien
les
formé.
Les caniches contre les ketchup mayo. C'est ça le match.
Ketchup mayo parce que c'est jaune.
Moi, je trouve ça
c'est
trop mignon.
Rouge.
C'est trop mignon. C'est mignon. Franchement, j'aime bien.
C'est bon. Ouais, c'est mignon. Voilà, bon.
Tiens, Didier, là,
c'est un support mayo. C'est et le mayo et le sandwich en plus.
Oui,
oui, voilà.
Salut Didier, bienvenue sur RMC au 32-16.
Salut à toute l'équipe, comment allez-vous?
On va bien. Très bien. Didier, supporter lillois?
Ah non, Lensois.
Plaisante,
je crois qu'il l'a fait exprès.
Juste une aparté avant de vous parler de ça. D'abord, dire bonjour à Stéphane Guy, Je suis très content qu'il ait rejoint l'équipe. Autant il m'a fait marrer pour le mythique PSG Barça avec son c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Alors là, ça c'est
oui, dans la légende. Dans la légende.
Ah, pourquoi ça t'a fait marrer en fait?
Ah bah, oui. Surtout par rapport à l'arrivée, quoi.
Oui, j'ai bien compris que c'est ça qui te faisait marrer.
Tu sais à quelle minute du match je le dis?
Ah, ça doit être vers la 70e par là, non?
Ouais, non, je le dis à la 83e. Bah, par là, autour de la 85e d'un match. Oui, à ce moment-là, je sais plus. Oui, 3. Ouais.
Et puis, en plus, je connais bien sa région parce que mes grands-parents avaient une maison à côté des arbres qu'il doit connaître.
Ah, bah oui, bien sûr.
Voilà. Les Jeunettes, exactement.
À côté du Haras du Pin où beaucoup d'équipes olympiques vont s'entraîner, l'équipe de sport équestre, notamment la Nouvelle-Zélande.
Et où Gabin avait une propriété.
Exact.
Bon. Et toi, ce derby Lille-Lens qui aura lieu demain à 21h sur RMC, raconte-nous ton derby, la puissance de cette opposition face au LOSC.
J'ai bu les paroles de Monsieur Brochard là, et effectivement, il y a beaucoup et tout ce qu'il dit, c'est vrai, je le ressens également. Par contre, moi, j'ai aucune animosité contre les Lillois. Hein. Jamais. Moi, c'est ce que
ça veut dire que quand t'as un match de Coupe d'Europe de Lille, là, comme le quart de finale qui s'annonce,
t'es quand même pas pour
tu
eux.
Tu seras pour Lille?
Ah oui.
Ah, dis donc, ça arriverait pas entre Stéphanois et Lyonnais ou entre Parisiens et Marseillais. Hein.
Ah, mais moi, il y a qu'une équipe que je supporte pas, c'est le PSG, de toute façon. Je suis jamais pour. Eux, ils peuvent rencontrer même Sarajevo, n'importe qui, je serai jamais pour.
Mais ça c'est pas propre au Lensois, Didier, c'est propre à toi, non? Ou au Lensois, d'ailleurs, tu me dis, mais.
Les supporters de Lens, en général, ils vont pas soutenir Lille en Coupe d'Europe la semaine prochaine, quand même.
Mais pourquoi pas?
Non, je te dis, toi, j'ai bien compris ton avis, mais autour de toi, Olivier, les Lensois vont pas soutenir Lille en Coupe d'Europe, quand même.
Bah, je suis pas sûr. Quand on est Lensois, quand on est Lensois, on n'aime pas Lille, et quand on est vrai Lillois, on n'aime pas Lens. C'est-à-dire que le premier résultat qui nous intéresse dans une soirée de championnat, c'est de savoir quand on est Lillois, si Lens a perdu, et ben.
Alors t'as peut-être pas bien compris ma question, mais je disais donc un Lensois ne va pas, parce que notre auditeur, lui, il dit que ça lui est égal, il est même pour Lille en Coupe d'Europe, mais un Lensois va pas être pour Lille en Coupe d'Europe.
Ah oui, ben c'est évident. Donc il fait partie des 5 ou 6% qui ont cette pensée-là de.
Ah voilà,
de
dire, il est minoritaire avec cette bienveillance.
Bien sûr.
Il est bienveillant, notre auditeur, il est exception.
J'ai l'impression qu'il a gardé sa malveillance pour quelqu'un d'autre, quoi.
Il a mis toute sa malveillance sur le PSG.
Non, mais je pense pas que je sois malveillant, hein, honnêtement. Hein. Moi, j'ai mon beau-frère qui est supporter lillois. Quand Lens il joue, il va pas. Moi, je veux pas faire des bons dans le fauteuil, mais ça me fera plaisir s'il se qualifie. Je veux dire, je veux pas être contre.
D'accord, ok.
Bon, okay. Et comment tu.
Et puis, alors, juste une chose. Vas-y. Parce qu'il l'a pas dit. Alors, de mémoire, je voudrais pas dire bêtises, mais les Lillois, c'est les Ch'tis, mais d'origine, les Lensois, c'est les Boyaux Rouges, on les appelle.
Les quoi?
Les Boyaux Rouges.
Et pourquoi donc?
Eh bien, je sais pas. Enfin, moi, je sais que moi, j'ai ma belle-famille qui était de là-bas, il disait toujours, nous, les Lensois, on est les Boyaux Rouges, et les Ch'tis, en fait, c'est les Lillois.
Olivier, bonjour, t'entends
ça? Boyaux Rouges. Ouais. Ouais, alors c'est par rapport aux mineurs et aux mines du 62, enfin du Pas-de-Calais, où les Boyaux Rouges c'était quand même des ceux qui en avaient dans l'intestin, qui en avaient dans les tripes, hein, voilà, comme les Boyaux. Voilà. C'est à partir de là que ça a été considéré comme des Boyaux Rouges, mais il y a tout à fait raison, notre ami. Hein.
Tu coucheras moins bête, mon Didier. Hein.
Oui.
Merci d'avoir été là, en tout cas.
Et puis, juste dernière chose, après, je vous.
Ouais.
Félicitations à Daniel pour ses bouquins, je les ai tous achetés.
C'est gentil, merci beaucoup.
Et franchement, je les conseille, c'est vraiment toujours intéressant.
On sait lire à Lens, alors, contrairement à ce qu'on raconte.
Pardon?
C'est une blague, hein,
Ça c'était la blague. C'était la blague, si je peux rebondir, c'était la blague des Lillois après cette fameuse banderole qu'il y avait eu en finale de coupe
de la Ligue
8. C'était quoi la blague des Lillois?
C'était chômeur.
Oui, pédophile, quoi, chômeur, oui, consanguin, bienvenue chez les Ch'tis.
C'est pas la banderole. Consanguin, bienvenue chez les Ch'tis.
Oui,
mais une semaine après, donc les Parisiens avaient préparé une banderole, mais ils n'ont pas eu autorisation de pouvoir la mettre au stade. Et c'était marqué. Excusez-nous, on ne savait pas que vous saviez lire.
Ouais. Je m'en souviens de celle-là. Ouais. À bientôt, Didier.
Ouais, à bientôt.
Bon match. La deuxième est beaucoup plus drôle que la première.
Ouais. Olivier Brochard, auteur de l'histoire des derbys Lens-Lille. Un grand merci d'avoir été dans l'after ce soir, Olivier. Bon match demain.
C'est avec plaisir. Et puis, il y aura un match retour. Il y aura, il y aura une édition l'année prochaine parce que les deux équipes vont pas se quitter.
C'est
comme
le combien, là? On joue le combien de derbys, tu sais?
Alors, voilà. On est au 120e derby, toute compétition confondue. On a même pris avec mes associés le CFA, le National à l'époque où ça n'allait pas trop bien entre les deux équipes. On espère, alors, 120e là, 100e en Ligue 1 demain.
Voilà, centième en Ligue 1 demain. D'accord.
Et ça n'a rien à voir. Dernière question, Lille-Lens, c'est à part. Quand on dit derby du Nord, quand c'est Lens-Valenciennes ou Lille-Valenciennes, ça, on ne devrait pas l'appeler comme ça.
Non,
on devrait pas
dire ça. Ben non. Non, ben non, justement, mais on espère en avoir. J'ai une émission sur une radio concurrente à la vôtre lundi soir où on a reçu le directeur sportif de Valenciennes. J'ai dit, mais on espère maintenant faire des derbys VA LOSC, mais on va devoir attendre.
Non, ce n'est pas des derbys. Derby, il y en a qu'un. C'est un autre.
Ouais, alors, derby, ça a plusieurs connotations. Est-ce que c'est, ça peut être au niveau localisation, est-ce que ça peut être au niveau les équipes qui se sont affrontées le plus souvent dans la région?
Bon, en général, il y en a qu'un. Voilà. Olivier, merci beaucoup d'avoir été là. Très bon match et à très vite sur RMC. Bye bye, Olivier.
Dans les grands pays.
Ouais.
Derby, c'est dans la même
ville. Au revoir, l'after.
Il est 22h55. L'after revient dans un instant avec Stéphane Guy, Daniel Riolo. Courte pause et l'avis de Stéphane sur les Jeux Olympiques. A tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Daniel Riolo, avec Stéphane Guy, l'after en direct jusqu'à minuit sur RMC à la radio, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after, @after-foot. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez commenter aussi. Petit souci technique, on peut pas mettre les messages ce soir, mais n'hésitez pas à venir nous voir ce soir. À réécouter en podcast, hein, c'était très intéressant avec cet auteur il y a quelques instants sur ce derby. Moi, je trouve que c'est un derby mignon. J'aime bien les derbys comme ça, trop mignon. Celui de Lens de demain soir.
Jérôme, qui lui est plutôt porté sur les derbys bretons,
Jérôme Thomas,
est venu pendant la pub. Et c'est vrai, il y a dans les derbys, il y a une autre dimension. C'est celui qui surjoue son derby, alors que l'autre, quelque part, le méprise un petit peu. Par exemple, je lui parlais de Nantes-Rennes, et c'est vrai que eux se débattent dans ce derby, les Rennais, alors que les Nantais les méprisent. C'est celui qui veut se bagarrer, mais l'autre, mais laisse-moi tranquille, je m'en fous de toi.
ils se sont obligés de corriger. Non, parce que quand même, pas, il y a une vraie rivalité, parce qu'on les tape depuis 20 ans quand même.
Oui, d'accord, mais les Nantais, comme eux, méprisent les Guingampais. Sauf que les Guingampais leur ressortent tout le temps leurs deux Coupes de France gagnées en très peu d'années, deux finales, deux humiliations. Alors que par exemple, les Stéphanois et les Lyonnais, il n'y a pas de ça. Ils se détestent. Il n'y a pas la touche de mépris. Même ils ne peuvent pas se blairer, Les Parisiens commencent à avoir ça parce que sur les 10 dernières années, et justement, c'est ça que je n'aime pas. Je n'aime pas cet aspect-là. Et toi, avec la nouvelle génération, vous entretenez un petit peu ce truc-là.
Ah, ce serait un peu de ma faute, quoi.
Oui. En gros, comme ils sont beaucoup moins forts maintenant, comme ils n'ont plus les moyens réellement et tout, tu dis, ouais, bon, si vous gagnez, comme quand ils ont gagné en Coupe de France l'année dernière, ouais, ok, bon, d'accord, vous vous êtes bien amusés, là, c'est bon, vous avez rigolé, mais bon, on ne joue plus dans la même cour. Moi, j'aime pas du tout ça. Moi, je suis pas de cette génération-là. Moi, j'ai connu les autres années. Pour moi, ça reste et je respecte tout le temps autant l'OM. Alors que toi et ta bande, un peu moins, j'imagine.
Tu n'as pas le mépris, finalement.
Non.
Actu, tu me dis, Jérôme? Allez, en direct.
Pardon, les Strasbourgeois avec Mulhouse. Ils les méprisent complètement.
Non, pas tous.
Si. Ouais. Regarde, Gilbert, par exemple, avec les Messins. Les Messins aimeraient que ça fasse derby. Les Strasbourgeois, ils disent, vous nous emmerdez, vous n'êtes pas avec nous, vous. Très intéressant cet aspect-là dans les matchs.
Absolument. Et on sera content de les voir, en tout cas, tous ces matchs, mépris ou pas mépris. Parce qu'on l'aime, cette Ligue 1. Les JO au programme tout à l'heure, dans quelques minutes, avec la vie tranchée de Stéphane. Vous êtes sur RMC, il est quasiment 23h. Merci de nous avoir choisi. Un peu d'actu du jour. D'abord, pour vous parler de cet homme qui est peut-être celui que les présidents de Ligue 1 craignent le plus, enfin leur comptable surtout, Jean-Marc Mikeller, c'est le patron de la DNCG. Il a donné une interview à l'équipe aujourd'hui. Il a donné des chiffres
très intéressantes
et des conseils. Je vous en donnais quelques-uns et je pense que vous en avez noté. Vous donnerez ceux qui ont retenu votre attention. Bon, nos clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont un déficit de 282 millions d'euros au 30 juin 2023. C'est beaucoup, mais c'est moitié moins que l'année d'avant. Il y a un déficit d'exploitation de plus d'1 milliard d'euros pour nos clubs. C'est un tout petit peu moins que l'année d'avant, mais bien sûr, ça reste monumental. Et puis, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il part.
On a tous retenu.
Oui.
C'est vrai que c'est un chiffre qui est assez intéressant.
Ouais. Sur son petit calcul.
Absolument.
Il fait un petit calcul, le président de la DNCG, pour expliquer, pour montrer que le foot français dépense mal son argent. Je cite sa déclaration. Il dit « Nous avons calculé le ratio masse salariale par points récoltés dans les compétitions UEFA des équipes qui ont participé aux Coupes d'Europe lors des 5 dernières années. Ce ratio moyen est de 11,5 millions d'euros par point pour 34 clubs des principaux championnats. Il est de 17,3 millions en France. Le coût des effectifs des clubs français est trop important par rapport à leur performance. »
J'adore le fait que il matérialise complètement le raisonnement. C'est-à-dire que ce que nous on sent depuis des années, à savoir que on n'est pas si pauvre que ça. Et en termes de moyens financiers, puisqu'on est le cinquième championnat en termes de moyens financiers, et que ça ne se voit pas en Coupe d'Europe parce que trop souvent on perd contre des équipes de pays où il y a beaucoup moins d'argent. Le fait que, évidemment, c'est pas inventé, ça, on le constate chaque année. Mais je sais pas pourquoi ce chiffre m'a vraiment marqué. C'est comme si on te disait, ben voilà, le fric tu l'as. Mais regarde ce que tu fais avec. Tu le recrutes mal. Tu prends le joueur que tu prends, tu le payes trop cher. Il vient, il n'est pas assez performant. Donc je trouve que ça remet en cause beaucoup de choses et beaucoup de défauts de notre football. Alors, tout simplement, des clubs, des dirigeants qui ne travaillent pas bien. Si tu arrives à ce genre de chiffre-là, mais ça va beaucoup plus.
Il y a deux éléments. Alors, quand même, Stéphane, Jérôme, qui est le chef d'orchestre de cette émission, m'a dit on doit faire absolument une petite pause maintenant. On a été très long sur le derby. C'est moins de deux minutes. Et je te rends la parole en premier dans un instant. C'est l'after sur RMC avec Stéphane Guy et Daniel Riolo. À tout de suite. On revient très vite.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.